On est où exactement? Le Mirador, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu?
Oui. Mirador de São Pedro de Alcântara, c'est un des plus jolis miradors de Lisbonne. Il semble que c'est un trempe-l'œil, comme si tout ce paysage était peint. Et c'est joli, c'est une belle vue de château, de la Grasse, de notre quartier, Peña de France. On voit au moins 3 ou 4 collines par ici. Et les collines, ça crée aussi une distance, mais en même temps, ça annule aussi la distance en même temps. Peut-être à Lisbonne, même au Portugal, mais plutôt à Lisbonne, je crois que les 7 degrees of separation devient 2 degrés de séparation. Je crois que c'est à cause des collines. C'est facilement à Lisbonne, tout le monde se reconnaît, tout le monde se connaît, se reconnecte et connecte plus facilement peut-être que dans d'autres villes. Je ne sais pas, je crois que les collines aideront à ça. Dans ce cas-là, à Rome peut-être c'est la même chose, à Istanbul, enfin, toutes ces villes de contour. Voilà, c'est un jour terrible, plein de vent, plein de froid.
Et c'est quoi ce vent lisboète qui apparaît de plus en plus fort dans la journée, vers le soir?
Il y a quelques jours, apparemment, il y avait des vents africains qui venaient de... Et même, il y avait une espèce de poussière qui s'installait un peu partout. Enfin oui, c'est un peu affreux. J'arrive pas à penser de manière poétique pour l'instant avec ce vent, parce que ça fait tomber des arbres, ça crée énormément de problèmes en ville. Même où j'habite, c'est juste à côté de la mer et ça fait trop... Enfin, on entend des choses qui cassent, des choses qui... C'est un peu perturbant. Sinon, le vent, c'est vraiment une caractéristique de pays, quoi. Et de la côte, et même de la langue. Je crois que c'est à cause de la langue qu'on parle, que la langue portugaise a plein de « ch ». La phonétique est faite de petits vents. Le reste, c'est ça, ça m'énerve. Ça fait des jours et des jours que le vent n'arrête pas et j'ai envie de frapper.
Je veux que tout change.
Où est l'intérieur? Est en Lisboa. L'atelier intérieur est à Lisbonne.
Ok, je vous promets.
Il est 23h et l'atelier intérieur s'ouvre à la nuit lisboète, à l'esprit libre, d'un territoire accroché au continent, mais surtout face à l'océan. À ce mot, saudade, que Camões décrivait comme un mal qui fait du bien, un bien qui fait du mal. À Lisbonne, il y a du sentiment, et quelque chose d'intraduisible, mais peut-être d'audible, comme un peu de sable dans les voix, quelque chose qui enraye tout en donnant du grain. Il y a, dans les voix, plus de grains qu'ailleurs. On parle depuis la poitrine. On est en haut des collines et on prend en plein l'océan et le vent. L'image de départ ce soir sera celle-là. Monica Kahl, il y a 20 ans, va demander au docker si ce petit local, là, dans le quartier Cais do Sodré, elle peut le louer. Ils disent « ok » sans savoir que ce sera pour des années. Monica Kahl se met à dire « Rimbaud ». On la prend au début pour une prostituée, puisque c'est le quartier, avant de comprendre. En fait, c'est le poème au cœur de la vie, à 1 cm de la vie, collé. L'image de départ, c'est aussi celle de Lula Pena, qui, elle, dit « J'ai mis une heure de distance entre chez moi et Lisbonne, entre mon travail et ici. » On est donc à un centimètre ou à une heure pour respirer, puisque l'intensité de la vie ici ne donne pas de répit. Lisbonne met du grain dans les voies, et c'est ce que l'on vous propose d'écouter cette semaine. Les ateliers de la nuit, de 23h à minuit, sont à Lisbonne pour entendre comme la ville sonne. Il y a du sable, il y a de la lumière dans les voies, il y a de la mélancolie et son contraire aussi. Il y a de l'Europe dans les voies. C'est étrange, c'est un peu comme nos voix d'avant, celles de nos aïeux. En les écoutant parfois, on se dit que nous, on les a lissées, qu'on a peut-être un peu oublié. Cette façon d'être hanté par l'histoire, d'être mu par demain, avec l'esprit résistant, accroché au continent, mais surtout face à l'océan. Cette façon de tourner le dos parfois, cette liberté qui ne fait pas de compromis, qui ne se laissera pas écraser. On se dit qu'il est encore temps d'être à un centimètre de la vie et de traduire en français le mot « saudade ». Dans notre nuit lisboète, il y aura la voix de Lula Pena, compositrice, chanteuse d'un fado intime, l'écrivain Gonzalo Tavares qui sonde l'homme contemporain, celui qu'il croise dans les rues, en marchant. Il sera traduit ce soir par Paola Sapino. L'artiste performeuse, Monica Kahl, qui après s'être installée il y a 20 ans dans le quartier des prostituées, vient d'ouvrir un nouveau lieu dans une cité HLM de Lisbonne. Enfin, au Théâtre National, le metteur en scène Thiago Rodriguez investit le lieu. Il vient d'en prendre la direction et compte bien ouvrir le théâtre à tout vent, à la rue, à la vie. Le chemin ce soir ira du Mirador jusqu'à la scène du théâtre à l'abri, en passant par Caisse de Sobré et le bord du Tage. On est dans le vent et ça commence maintenant.
Dois peixes espada grelhados e três de pastéis e três doses de pastéis. Mesa 17. Tunho, três colas, duas gelo limão, uma só limão e duas cervejas.
Lula Pena est rare. Jusqu'au dernier moment, on se demande si elle va être là, si ce n'est pas un mirage. Et puis finalement, c'est une apparition. Une silhouette androgyne, aérienne, un regard intense. La voix minérale qui a fait l'expérience de la saudade. Ce mot intraduisible, cette douce mélancolie, ces douleurs profondes, avant de le chanter, avant d'entrer dans le fado et de le prolonger par des mélodies intimes. À l'intérieur de deux disques, Fados et Troubadour. C'est un esprit libre, c'est une chanteuse poète.
Pour moi, Lisbonne est une ville de passage. Elle n'est pas vraiment une ville qui tient, comme Porto, par exemple. C'est une ville féminine, le Porto est plus masculin. Mais il y a un côté transitoire constant dans cette ville. Pour moi, ne pas habiter ici... Je crois que ma musique, ça aussi, se distancie de la ville en soi. Normalement, je fais tout un raccourci de mes expériences fictionnées ou pas fictionnées, existentielles ou pas existentielles, et d'essayer de trouver quelque chose de plus sacré à passer aux autres. Et je crois que la ville, pour l'instant, et même quand je pense au nouveau répertoire que je suis en train de travailler, je crois que la ville n'est pas vraiment... La ville exactement de Lisbonne, elle n'est pas vraiment importante. Ça devient une image, une référence comme n'importe quelle autre ville, que ce soit la capitale, que ce soit l'accueil du pays, d'une identité. Je ne vois plus l'identité, je vois un paysage, un peu le postal. C'est beau, c'est joli, mais je vois la façade. Mais j'habite à Sintra, ça fait près de Sintra, ça fait une heure de distance, et je crois que mon travail prend une heure de distance aussi au niveau de la création.
Et la musique fado, est-ce que en grandissant ici, vous la côtoyez, est-ce que vous la fréquentiez, est-ce qu'elle est présente, très présente dans la ville?
Moi, j'ai pas aimé le fado quand j'étais petite. Enfin, c'est pas que tu nais à Lisbonne et le fado, c'est pas un truc intraveineux comme ça. Et je n'aimais pas, je ne comprenais pas. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait. Enfin, c'est un truc d'âme et d'expérience émotionnelle. Enfin, il faut que tu aies vécu une espèce de douleur, de souffrance pour. Après, comprendre, ressentir, faire résonance avec le fado. Donc, au départ, je crois que c'est normal, je n'ai pas aimé. Mais après, un peu plus tard, j'écoutais Amalia, bien sûr. Et là, j'ai commencé à faire la résonance. Et un jour, comme ça, j'ai commencé à vouloir chanter, un peu plus pour expérimenter la sensation spirituelle, de se connecter à... Je sais pas, une espèce de souvenir de douleur et comment ça pourrait passer dans le corps, au niveau de chant, de message. Et voilà, et petit à petit, j'étais complètement prise par la force, parce qu'il y a une force là-dedans. Mais vite fait, j'ai compris qu'il y a aussi toute une espèce de protection, paternalisme, maternalisme, je ne sais pas comment l'appeler, autour de fado. Et déjà, cette démarche vers UNESCO de reconnaître comme patrimoine, je le vois plutôt comme un matrimoine matériel. Et ça se voit tout de suite quand tu commences à vendre un produit qui doit avoir cette saveur, cet envoûtement, blablabla. Et ça perd, ça va coincer le... Enfin, ça coince pas nécessairement, mais... Comme ça, tu deviens un opéraire, fonctionnaire de fado. Et ça n'est jamais ce qui m'intéresse comme outil pour la musique. Je préfère la liberté. Donc, le fado m'a donné un ingrédient assez particulier. Mais je fais un gâteau, je fais une nourriture un peu plus, comment on dit, éclectique, dans le sens du rond, du tout, de l'universel. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je crois que trouver ce qu'il y a de commun dans l'universel, c'est une démarche vers la liberté. Donc, je me suis un peu crié la distance avec le fado pour l'instant.
Une heure de distance, comme entre Lisbonne et...
Au moins, exactement. Au moins une heure de distance avec le fado. Au départ, je pensais que oui, que j'étais fadiste, mais avec PH, comme le premier disque que j'avais écrit, il y avait toute une philosophie associée. Le titre était écrit avec des parenthèses de transcription phonétique, donc il y avait un message graphique codifié pour apercevoir, faire une lecture de mon intention musicale.
C'était Fados, P-H-A-D-O-S.
Oui. Et donc ça remet vers une ancienneté d'origine, mais aussi une contemporanéité. Donc j'ai toujours voulu être dans ce milieu, trouver le point d'équilibre, le point juste où les choses peuvent se passer de manière intemporelle. Et le fado a passé par tellement de variantes que je me sens, oui, porteuse d'une autre variante. Mais sans l'ambition de « non, je vais transformer le fado », non. Je prends le fado comme point d'appui dans l'espace sonore pour créer un réseau de connexion et de, voilà, et me sentir libre, citoyen du monde, voilà. « Au grand de gelatin, pinto el consagrado » Que foi bem grande e nos dói já sair do passado. Indo no matar com o ar e com vida na trova mais bela da terra mais querida.
Donc Fado, c'était en 98. Comment la musique est arrivée petit à petit en vous, puisque je crois que vous avez fait des études de design, vous êtes passé par Barcelone, par Bruxelles, donc vous avez aussi fait des détours avant d'arriver à la musique. Comment ça s'est glissé en vous ?
La musique m'a fait voyager et mes voyages m'ont fait composer. Et c'est toujours encore comme ça. Mais même parce qu'il y a eu un moment où j'étais assez nomade dans le temps. Et d'un coup, il y a peut-être 5-6 ans, je suis retournée à Portugal. Et là, j'étais complètement coincée au niveau bureaucratique, administratif. Bon, des choses qui ne sont pas bien passées. J'arrivais à un moment où je ne pouvais plus partir. Ce n'était pas évident, je n'avais pas d'argent. Donc, je commençais à faire des voyages différemment, quoi, sans sortir. Et ça m'a permis d'accéder à d'autres lieux qui n'existaient pas. Je me suis trouvée dans la possibilité de faire des voyages encore plus loin, encore accéder à des lieux pas nécessairement imaginaires, mais aussi imaginaires, et de enregistrer au niveau télépathique, consciente, la musique de ce lieu, et voilà, et de construire avec comme matière organique à accepter où j'étais, et que c'était à la fin dans un monde assez ronde. Donc le plus loin que tu puisses aller, c'est juste derrière toi. Voilà, on dit une heure en centimètres de décalage, toujours. C'est la physique quantique qui peut nous aider à comprendre, mais ça, je ne serais pas capable d'expliquer en résumé. Je crois que voyage et musique font partie de c'est la même chose. C'est l'acte de marcher qui reprend le ritournel, qui reprend la mélodie. Ouais, tout est lié. Tu peux avoir des expériences complètement science-fiction avec la musique. Tu peux faire de la magie, la bonne magie. Tu peux tout faire avec la musique, en fait. Y à la fin, il n'y a rien qui reste. Il n'y a pas la preuve que la musique existe, qu'il y a eu la preuve que ça s'est passé, le concert. C'est un vrai mystère et moi, j'accepte. Je ne sais pas exactement ce que je fais. Je me suis rendue au mystère des mystères du son et j'essaie de, faire les choses bien.
Le vent s'est levé au Mirador. Pour jouer, il faut trouver un abri. Lula Pena attrape sa guitare pour monter sur le toit de l'immeuble d'en face, chanter au coin d'une table de restaurant un verre de vin rouge à la main.
Antenas e pernas, líquidos e vistas e ardores, calor.
dores mal passadas, mas não no teu corpo, não no teu corpo, mas o teu tronco e antenas e pernas, líquidos e vistas e ardores, calores, amores mal passados. Não há l'autre, s'il te plaît, il est déjà tard, si ni l'un ni l'autre. Comme la perte des autres, comme la perte des huîtres, je suis l'homme de l'autre, je suis dans les autres des autres, comme la perte des huîtres, je suis l'un de l'autre, je suis dans des autres pas.
Nous quittons le Mirador en hauteur pour entrer à l'intérieur d'un atelier. Pracha Pasteur, numéro 8, deuxième étage, gauche.
Oui, c'est Aurélie de la radio. Merci.
Gonzalo Tavares est né à Luanda et arrivé à Lisbonne à 18 ans. Depuis cet âge, il écrit tout en se promettant de ne publier qu'à 30 ans pour bien mûrir. Il avoue marcher plusieurs heures par jour dans la ville pour commencer mentalement à écrire au cœur de la foule et des visages. Il écrit poèmes, romans, théâtre. Dans son dernier livre, Un voyage en Inde, il reprend la forme des Lusiades du poète Camoès. C'est un long poème épique, des chants en strophes, pour faire une épopée du XXIe siècle. Gonzalo Tavares est aussi professeur d'épistémologie à Lisbonne. Il nous reçoit devant sa bibliothèque où la littérature française a bonne place.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on est là? Vous venez d'emménager dans ce quartier, c'est votre atelier, on est arrivé, il y a des livres un peu partout. C'est quoi cet endroit?
Isto é o meu atelier de
trabalho. Ici, c'est mon atelier de travail. J'avais un autre atelier et j'ai déménagé il y a environ une semaine et demie. Certains bouquins, certains livres sont déjà dans les étagères, d'autres pas encore. J'essaie de les organiser d'une certaine façon par ordre alphabétique. Et parfois, j'essaie de les organiser par essais, en séparant le théâtre de la poésie, etc. Donc, nous avons différentes sections. Et pourquoi vous avez choisi ce quartier, cet endroit?
J'habite
très près d'ici, donc je viens à pied. C'est un gros avantage de pouvoir sortir à pied de chez soi et aller travailler à pied. Et justement, dans l'écriture, est-ce que le lieu a une importance pour... Est-ce que c'est le départ de l'écriture, parfois?
Oui,
le lieu, oui, la ville de Lisbonne, pour moi, représente la ville de l'écriture. Oui, presque tout ce que j'écris, c'était ici à Lisbonne, et pour moi, le paysage et la dimension de la ville sont presque parfaits. J'aime l'idée d'une ville qui est presque un animal que l'on arrive à apprivoiser, à contrôler presque. Et Lisbonne, je sens que c'est cet animal que l'on arrive à contrôler, alors, tandis que d'autres villes, non.
Par exemple, j'étais en Belgrade.
J'ai été à Belgrade, à Rome. Ce sont des villes qui apprivoisent l'homme et non pas le contraire. Donc Lisbonne n'est pas une ville agressive pour moi. Et il y a cette question des gens de Lisbonne, qui est une question fondamentale.
Les gens en général, les personnes en général, moi j'aime écrire le matin et ensuite j'aime donc sortir l'après-midi, voir beaucoup de monde et ça me donne de l'énergie. C'est comme si je volais cette énergie des gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre et je n'arrive justement pas à écrire à la campagne à cause de ça. Parce que je n'arrive pas à extraire de l'énergie des animaux ou des herbes ou des arbres. Pour moi, tout ce qui n'est pas humain est du paysage. C'est une chose pour voir, pour contempler, mais ce n'est pas quelque chose qui me donne de l'énergie. Tandis que les gens dans le métro, hyper pressés, ou passionnés, ou amoureux, ou agressifs, tous ces gens-là, tout ce mouvement, ça me donne de l'énergie, ça me donne beaucoup de force. Et c'est ce qui me permet justement d'écrire le lendemain matin. Ça n'a rien à voir avec les événements. Ce que je vois, ça a à voir avec l'énergie humaine.
Votre dernier livre, Voyage en Inde, s'inspirait dans la forme des Lusiades de Camoès.
Oui.
Donc c'était un poème épique. Pourquoi cette forme-là et cette référence-là à Camoès? Pourquoi vous aviez eu envie de jouer avec ça?
Camoès
et Fernando Pessoa sont pour... ceux qui écrivent en portugais, des objets incontournables. Donc on est obligé obligatoirement de passer par ces deux auteurs.
Ce qui m'intéresse beaucoup est aussi de faire une relation entre la tradition.
Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est établir une relation entre la tradition et la modernité. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout la forme de l'épopée, donc une forme classique, qui est un format de poésie qui raconte une histoire. On raconte une histoire via un format en poésie. Le roman, et qui a été remplacé par le roman. Le roman a étouffé presque toutes les formes. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est récupérer l'épopée en tant que forme pour raconter cette histoire. Donc, en fait, j'envisage un peu les formes classiques comme des machines qui sont devenues obsolètes, qui ne sont plus mises à jour, qui sont désactualisées. Mais c'est de notre faute parce que c'est nous qui ne savons plus utiliser ce genre de machine. Et ce que j'ai voulu faire en utilisant ce format de l'épopée, c'est de réactualiser, remettre au goût du jour. J'aime beaucoup un auteur allemand qui raconte l'histoire d'un personnage qui voit comme ça sur les deux côtés. Et donc le mercredi, quand on est au mercredi, elle voit les deux dimanches à la fois, en même temps. Et moi, j'essaie d'être un écrivain justement qui voit sur les côtés, qui d'une part voit le dimanche passé, c'est-à-dire l'histoire de la littérature, tout ce qui a été fait par le passé, et ensuite qui a l'œil qui est posé déjà sur le dimanche suivant, qui essaie de faire quelque chose de nouveau, qui essaie de faire quelque chose de différent. L'autre part a bien les pieds sur le mercredi, c'est-à-dire à conscience de la réalité, ne fuit pas la réalité, et essaye de tenir compte de cette réalité.
Et si justement vous voyez des deux côtés, ou en tout cas si vous avez des yeux derrière la tête pour voir le passé et puis être dans le présent et observer le futur, comment vous mesurez la différence entre les deux réalités, la réalité passée et celle d'aujourd'hui? Je crois que vous dites qu'on a perdu de l'intensité, que par exemple chez Camoès, une énorme bataille, un duel se transforme en quelque chose de moins violent peut-être aujourd'hui, dans Voyage en Inde, moins intense. Qu'est-ce qu'on a perdu comme intensité de vie?
Je pense que, en premier lieu, nous perdons la figure du héros classique, non?
Et en premier lieu, je pense qu'on a perdu la figure des héros classiques, qui était quelqu'un qui faisait quelque chose de vraiment grandiose. C'est un petit peu comme les anciens Grecs disaient, c'est celui qui n'a pas peur de mourir.
Et
il y a un passage classique très beau, c'est un père qui s'adresse au professeur de ses fils. Il lui dit, j'exige que tu n'enseignes pas à mes enfants la peur de mourir. Et c'est quelque chose que nous, les Cantons, on ne comprend pas. C'est une autre logique. Aujourd'hui, nous voulons que nos enfants vivent longtemps. Nous, on ne veut pas que nos enfants soient des héros. Nous voulons que nos enfants vivent longtemps. Et les anciens, leurs enfants, entre le fait d'être héros ou vivre longtemps, ils préféraient que leurs enfants soient des héros. Et le héros du voyage en Inde, c'est un héros du 21e siècle. Il a peur de mourir. Donc, s'il a peur de mourir, tout ce qu'il fait, ce sont des petits faits. Il n'arrive jamais à accomplir des faits grandioses. C'est un micro-héros. Le voyage en Inde, c'est un petit peu tout ça, et aussi entre l'Occident et l'Orient, entre le matérialisme et donc le religieux, la spiritualité.
Un peu contre l'idée de que l'Occident est pur.
Cette idée qui prédomine dans le voyage en Inde, on va un petit peu contre cette idée que l'Occident est c'est le matérialisme et l'Orient c'est le spiritualisme, parce que justement c'est ce contraste, et le personnage qui se rend en Inde en quête de cette spiritualité, il va justement être volé sur place par le maître spirituel, donc ce qui veut dire que le maître spirituel était beaucoup plus matérialiste, donc que
muitas vezes é.
Et ce qu'on admire souvent en Inde ou en Chine en termes de spiritualité, c'est une pure conséquence de la pauvreté. Parfois. Et parfois aussi dû au manque de liberté. Et je ne crois qu'à une spiritualité qui part de la liberté. Quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Et beaucoup de la spiritualité que l'on admire en Inde part de la faim. Et voyage en Inde, d'une certaine façon, est aussi ceci.
Et le personnage qui est donc un héros, un personnage du 21e siècle, comment vous définiriez justement cette personne du 21e siècle qui peut-être a un peu perdu un esprit de collectif, une utopie, quelqu'un qui est en fuite, un peu perdu entre justement deux mondes, comment vous définiriez ce...
Sim, uma palavra que marca muito o livro e esta personagem.
Donc un mot qui marque vraiment, qui frappe, qui marque énormément le voyage en Inde, c'est le mot tédio en portugais, qui veut dire un petit peu l'ennui. L'ennui. Et c'est un mot qui est très caractéristique de l'homme de ce siècle.
Este lado mais do Ocidente.
Alors, ce qui caractérise souvent l'Occident et l'homme donc occidental, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de danger imminent. Il y a beaucoup d'exceptions, mais en général, il n'y a pas de danger imminent. Il n'y a pas les besoins basiques sont tous assurés, donc on s'ennuie parce que tout ceci est déjà assuré, et c'est une caractéristique donc de l'homme du 21e siècle qui fuit un petit peu, essaie de fuir cet ennui. Et peut-être que le grand défi de la société actuelle, c'est d'enseigner justement à faire face à gérer cet ennui. Ça a une fonction, donc la fonction de l'éducation serait d'enseigner, apprendre à gérer cet ennui et ne pas voir à chaque fois l'ennui comme étant quelque chose de dangereux. En fait, on peut dire que 90% ou 80% de notre temps, c'est dormir, donc manger, laver son assiette, donc faire la vaisselle. Ce sont des routines, en somme. Ce sont des répétitions. Être vivant, c'est répéter plusieurs choses. Ce n'est pas quelque chose duquel il faut se plaindre, parce que s'il n'y a pas de répétition, ça veut dire que le corps est mort. La mort est la grande surprise d'une certaine façon. Et la mort, le décès empêche la répétition. Et souvent, les plus jeunes, ils veulent toujours avoir de la nouveauté. Ils essaient à chaque fois d'échapper à cette répétition, alors que la grande surprise, c'est précisément quelque chose qu'ils essayent de fuir à tout prix, c'est-à-dire la mort. Et c'est bizarre, c'est étrange. Parce qu'on pourrait presque dire à ceux qui cherchent toujours des choses nouvelles, la surprise. Donc si tu veux vraiment une grande surprise, bon, on te présente la mort. Ça, c'est la grande surprise.
Vous avez écrit ce matin ?
Non. Por isso estou um bocado chateado.
Non, pour ça, à cause de ça, je suis un peu fâchée.
Normalement, je suis plus... Quand j'écris, fico mais...
quand j'écris normalement, je suis plus satisfait, plus heureux. Le corps, il est plus élevé, bon, plus...
C'est comme si le corps fosse puxado, né?
C'est comme si le corps était poussé
par un fil. Uma coisa
par un fil. Et donc en ce moment, le fil est en bas.
Où est-ce que vous nous conseilleriez d'aller nous promener dans Lisbonne pour observer justement les visages, les corps, pour marcher?
Bem, o tipo de observação de rostos ou de comportamentos...
Oui, pour les visages changent, les comportements, ça dépend de l'endroit où on se trouve dans la ville. Par exemple, si vous vous rendez à Chiado, il y a un certain type de personne, un certain type de vitesse. Si vous vous rendez à Alfama, il y aura peut-être moins de personnes originelles de Lisbonne, de Lisboète, mais vous allez voir que le type de vitesse est différent. Il y a peut-être plus de lenteur, la façon d'être, la façon de marcher est différente. Les gestes sont plus brusques, les gens sont plus éloignés entre eux à Alfama. Parce que comme les gens gesticulent beaucoup et de manière très vive, il y a un certain éloignement. Dû à cela. Tandis qu'à Chiado, les gens sont plus posés, donc ils sont plus proches physiquement en termes d'espace, parce que leur façon de parler est différente. Mais c'est une proximité apparente. À Chiado, il y a une distance minimale qui n'est jamais dépassée, tandis qu'à Alfama, non. Alfama, parfois on est très éloigné, mais parfois on est très proche et on se touche.
Et vous, c'est quoi votre vitesse? Vous êtes plutôt Chiado ou Alfama? Vous êtes plutôt distant ou vous parlez avec les mains?
Les mains. Quand j'écris de manhã, falo mais.
Quand j'écris le matin, je parle beaucoup plus avec les mains.
Et mais. Mais. Non, dépend un peu.
Non, ça dépend. Mais en général, je préfère les visages, donc un petit peu la vitesse de la ville.
Normalement, quand je tenho.
Par exemple, quand je vais dans des endroits où il y a peu de monde, j'emporte un cahier ou un livre. Et tandis que lorsque je vais à Chiado, je n'ai pas de cahier ni de livre, donc c'est la vitesse.
Donc vous avez un corps qui écrit et un corps qui n'a pas écrit.
Ah oui. Si. Pourquoi?
Oui, un peu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La nuit est tombée, nous descendons au bord du Tage, dans le quartier Cais do Sobre. Il y a 20 ans, Monica Kahl, comédienne, metteur en scène, s'installe ici près des docks, dans ce quartier qui est celui des prostituées et des petits trafics. Elle arrive alors à louer un local aux dockers et elle se met à jouer Rimbaud, la Vierge folle, pendant des heures comme une transe, un rituel, et ouvre les portes à tous. Maintenant que le quartier a changé, elle vient de tout recommencer à zéro ailleurs. Nous voilà devant le premier lieu ouvert à Cais do Sodré.
En 1992, j'ai sorti de l'école de théâtre et à Portugal, dans ces moments, il n'y a pas de subvention. Et j'ai commencé à travailler avec des personnes qui sont dans mon... Nous besoin de faire des choses différentes. Nous n'avions pas d'argent. Et alors, la seule possibilité de commencer à travailler, c'est trouver un lieu. Et les premiers spectacles que je fais, c'est à partir d'un texte de Rimbaud, La Vierge folle, de En saison en enfer. Et je voulais trouver un lieu non traditionnel. Et alors, j'ai commencé à penser, parce que c'est la dramaturgie de les spectacles, de mélanger le public du théâtre, mélanger les personnes de la rue, mélanger les choses. Et je cherchais Cais do Sodré. C'est un lieu marginal, même si c'est dans le centre de Lisbonne, 20 ans... Avant, c'est complètement
différent et dangereux,
c'est dangereux, marginal. Et j'ai trouvé ces lieux.
Celui-là?
Oui, c'est la première Casa Conveniente.
Qui était abandonnée à l'époque?
Et abandonnée à l'époque. C'est la Casa Conveniente. Et c'est pour ça que mon compagnie s'appelle Casa Conveniente, parce que...
C'était le nom.
C'est un magasin abandonné des choses de bateaux. Je cherchais, j'avais une réunion et je le demande s'il me prête cette lieu pour 4 mois pour faire la Vierge Folle. Et la Vierge Folle, c'est un spectacle en session continue. Et c'est un peu parce que ce quartier, c'est un quartier de prostitution, mais très de vieilles femmes. Très dangereux. Et nous avions la porte ouverte. C'est un peu joué avec la question de la Vierge Folle, session continue. Et c'est en même temps en striptease de jouer et de mélanger tous les clichés. Et en même temps travailler sur le texte Rameau. Et c'est le premier spectacle que je fais. Et dans cette époque, c'est un impact parce que. Pour le théâtre en Portugal, c'est quelque chose de vraiment nouveau.
Et c'est un peu scandaleux aussi.
Oui. Et scandaleuse, mais en même temps innovateur dans les prémices artistiques qu'il pose. Yeah. Et nous travaillons ici pendant 10 années. Au début, c'est pour 4 mois, et ça a duré 10 années.
Les dockers vous ont prêté 10 ans cet endroit?
Oui, et en même temps, commencer à faire des coproductions.
La mélange, mais à faire toujours de mélange.
La mélange entre la rue, les personnes, les fenêtres. Et en même temps, travailler sur la théâtralité, la construction artistique, et en même temps, le confronter avec la réalité.
Et comment les gens du quartier réagissaient à l'existence de ce lieu?
Au début, ils avaient des dénonces des policiers parce qu'ils ne comprennent pas bien si nous sommes de concurrence. Comment est-ce que je comprends?
Il y a de vraies prostitutes, mais...
Ils ne comprennent pas, mais ça, quand ils viennent pour voir les spectacles, et quand ils voient les spectacles, ils comprennent que c'est une autre chose. Et l'objectif de venir pour Castres à 20 ans, c'est mélanger vraiment toutes les réalités. Et à travers les gestes artistiques, créer une possibilité de rencontre.
Et après Rimbaud, et vous avez fait quel genre de spectacle ici?
Strindberg, Beckett, Tchekhov. Je travaille surtout sur la parole. En même temps, c'est un travail très physique.
Très physique, oui.
Très physique, mais sur la parole.
C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on se balade dans le quartier et c'est pas du tout comme vous le décrivez il y a 20 ans. Pas dangereux, il y a des cafés presque un peu sympas.
Oui, mais maintenant... C'est bien, c'est en même temps, mais pour moi, ce n'est pas bien, parce que les choses que je reconnais ici, au Cage du Soudré, c'est que tous ces quartiers se transforment, c'est une chose touristique, un peu comme le club méditerranéen, mais en façon ville, parce que ce n'est pas réel.
Depuis septembre, Monique Akal a décidé de repartir à zéro, de changer. Elle est partie dans le quartier HLM de Zona J, à Lisbonne, ouvrir un nouveau lieu, Casa Conveniente, au cœur des habitations, avec ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir la porte d'un théâtre.
Imagine un quartier d'habitation sociale, il est construit dans les décades de 80.
Les années 80.
Oui. Et... En même temps, c'est comme un quartier île, parce que c'est près de la cité, c'est près du mer. 10 ans depuis de notre conversation, j'ai besoin de sortir de là parce que la cité, il va le conquister.
Et que, ça a été quoi la première chose que vous avez montrée aux gens là-bas? Est-ce que vous avez
un
refait
texte
la Vierge Folle?
Non, c'est une adaptation réécrite d'un texte de Bertolt Brecht, le bon je ne sais pas la traduction en français, la bonne...
La bonne âme de Sichuan.
Oui, oui. Là, c'est la même chose que j'ai senti ici. C'est en sensation que les personnes vous accueillent. Au début, ils sont... Qu'est-ce que c'est ça? Mais en même temps, ils reconnaissent que c'est important et que... Et c'est la possibilité de mélanger autrefois et de couper le peur de la différence entre les personnes. Nous sommes tous différents, mais ce n'est pas une question didactique. Dites comme soi, ce n'est pas programmatique, ce n'est pas didactique, ce n'est pas ça. C'est la possibilité de travailler dans un lieu qui, pour moi, me possibilite la mélange entre toutes les questions. En même temps, sans condescendance. Et le chose que pour moi c'est plus important, c'est la possibilité de mouvement. Et comme tu penses, en même temps la création, en même temps le travail artistique, mais en même temps comme tu penses sur les questions de la cité. Que tu fais quelque chose qu'il y a vraiment d'écoute dans les autres. Sans savoir comment, mais qu'il y a une transformation que tu donnes et les autres te donnent en même temps. Et qu'il y a un liaison, un mouvement entre la création, les gestes artistiques et la vie.
Où est-ce que vous nous conseillez d'aller dans Caisse des Sobrés si on veut trouver un endroit, un petit café authentique et...
Tout a changé. Pour moi, c'est un peu étrange de revenir ici parce que ce n'est pas le... C'est pour moi. Mais ici, Liverpool, je crois que c'est un des seuls lieux que je connais qu'elle elle-même. Vous voulez entrer un peu? Rádio francesa. Pronto, eles estavam a me perguntar sítios que eu gostasse de mostrar.
Sim, sim, sim.
Pronto, posso?
Pode.
Não abra as luzes, deixa estar. Pronto, está boa. Não. Como está?
Ah, é toute la piste pour nous.
Non, mais après 2 heures, ça commence à. Bien. Mais maintenant, parce que c'est.
C'est trop tôt.
Non, parce que. À 7 heures, à 2 ans, à 1 heure, à 7 heures, il y avait des prostituées, il y avait des clients. Maintenant, ils attendent, ils sont dans le même lieu, les personnes sont les mêmes, la musique c'est la même, mais il n'y a des périodes, ni des prostituées, ni des clients.
Et vous buvez quoi? Vous buvez quoi quand vous arrivez ici?
Ça dépend, vin.
Ouvrir le théâtre à la rue, à la vie, c'est aussi ce à quoi croit Thiago Rodrigues, acteur, metteur en scène et tout nouveau directeur du Théâtre National de Lisbonne. Dans son dernier spectacle, By Heart, il invite 10 spectateurs à monter sur scène pour apprendre à sonner de Shakespeare par cœur, puisqu'il croit en la contagion et la transmission. Et il prend sa mission au sérieux dans ce théâtre qui a 169 ans au cœur de la ville.
On est entouré par quel fantôme?
Bien évidemment, les comédiens. Ce sont plutôt des fantômes amicaux, quoi. On a eu un incendie en 1964 qui a complètement détruit le Théâtre National. Les pierres étaient là, mais tout ce que vous voyez ici, qui semble vieux, c'est en fait des gens de 1970 qui ont imaginé le passé. Le bois, la scène, tout ce qui n'est pas pierre, marbre. L'incendie est très mystérieux et il s'est passé pendant une présentation de la pièce Macbeth, la pièce maudite. Je vais toucher le bois.
Parce qu'en Macbeth. Plus, vous êtes habillé en vert. C'est possible, ça, sur une scène de théâtre?
Ah oui, je ne suis pas tellement superstitieux. Je rigole avec le toucher le bois, avec trois fois quand je dis Macbeth, mais je le dis. Et je dis hasard et chance et tout ça. Et je peux siffler, ça, comment ça se dit en français?
Siffler.
Siffler, je peux siffler aussi. Dans les loges, c'est complètement interdit. Je laisse tomber le texte. En fait, j'ai dit en janvier, je rentre au théâtre avec le pied gauche. C'était plutôt politique, mais aussi contre une idée de passé qui n'est pas mon idée de passé.
Ce pouvoir du théâtre à l'intérieur de la société, dans les années, disons des années 30 jusqu'à la révolution des œillets en 74, vous l'avez questionné dans un spectacle qui s'appelait « Trois doigts sous le genou », où vous aviez travaillé sur la censure, justement, de la période salazariste par rapport au théâtre et à toutes les interdictions qui existaient, notamment sur les costumes féminins, les mots interdits, en tout cas. Comment était perçu le pouvoir du théâtre à ce moment-là, justement?
C'était en spectacle qui était... C'était une collage de rapports des censeurs sur les spectacles entre 1933 et 1974, alors la période de la dictature fasciste. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est qu'il y avait un discours des censeurs qu'on a essayé de théâtraliser. En fait, il y avait un discours qui m'intéressait beaucoup, dans ceux qu'ils écrivaient, qui parlaient précisément du pouvoir du théâtre. Ils disaient « c'est contagieux, c'est plus dangereux que lire un livre ». Il y avait une phobie, une vraie phobie de la dictature, de l'assemblée, de la présence des gens, plutôt que la dissémination des idées. C'était la présence des gens autour d'une idée. Et ils disaient bien sûr aussi que le théâtre était dangereux. Et en disant que le théâtre était dangereux, c'est le grand hommage qu'ils pouvaient le faire au théâtre. Et bien sûr, si je le dis aujourd'hui, le théâtre est dangereux, le théâtre peut changer le monde, dit Thiago Rodriguez. C'est naïf, quoi. C'est pas acceptable. C'est un peu, ah ouais, ouais, ouais. Mais si je dis, en censeur dit, le théâtre est dangereux, contagieux. Ça nous touche, quoi. Ces censeurs-là ont opprimé le théâtre, mais en fait, leur héritage nous signale l'espoir qui peut encore être trouvé dans le théâtre. Finalement, l'oppression documentée comme héritage, c'est une forme de recherche de liberté, de dignité, d'espoir. Et ça m'a touché beaucoup de me venger d'eux comme ça. Et j'ai jamais vécu pendant la dictature. Je suis né en 77, alors c'était aussi un pays que je découvrais. Je ne comprenais pas comment peux-tu... être obligé, le titre vient de là, à utiliser une jupe trois doigts sous le genou comme comédienne.
Il fallait obligatoirement que ce soit...
Trois doigts sous
voilà.
Le genou.
C'est-à-dire, par exemple, là, ma robe, ça ne marche pas.
Oui, ta robe, ça ne marcherait jamais.
C'est un peu trop court, ça ne marcherait jamais.
Vraiment trop court, tu dois... Tu es au Théâtre National, alors, s'il vous plaît, il faut sortir, tu sors maintenant. Ouais. Non, mais c'était... Ça, c'était très intéressant, le fait qu'il pas seulement censurait les manuscrits, mais il censurait les répètes. Et il disait des choses incroyables sur les femmes, par exemple. La comédienne qui joue Blanche Dubois, elle peut se mettre de genoux, elle peut même essayer de lancer comme ça une bouteille, mais la bouteille ne peut pas se casser. Si la bouteille se casse, c'est trop violent. Elle ne peut pas crier, elle doit parler à voix haute, mais pas crier. Il y avait beaucoup de censure du goût aussi, beaucoup de censure des corps, la censure de la femme, la censure des mots, de l'humour, de la question religieuse, et même parfois de la tristesse. La pièce est trop triste, on ne peut pas la présenter. Il y a quelque chose... très rigolo parce qu'il y a des anecdotes dedans sur un attendant Godot. Il disait « Je voudrais bien censurer la pièce parce que c'est trop faible littérairement, mais je trouve pas des raisons. Malheureusement, je dois l'accepter. »
Aujourd'hui, dans nos démocraties plus ou moins fragiles, plus ou moins en crise, il a quel pouvoir le théâtre ?
Je pense que le théâtre a un pouvoir énorme. Je parlerai avant de la différence que je pense qu'il y a de ennemi fondamental du théâtre. Si pendant la dictature, par exemple, c'était la peur et l'oppression actif, la censure institutionnelle, et maintenant c'est plutôt le danger de l'indifférence, le silence, l'invisibilité du théâtre, le fait qu'on peut penser et parler d'un projet de société et oublier des idées sur culture, création, théâtre. L'idée qu'on peut avoir des mois et des mois de discours publics, et là je veux dire discours du pouvoir politique, mais aussi des médias et aussi des gens dans la rue, et dans les écoles et dans les institutions, qu'on peut vivre des mois et des mois sans jamais parler de création et d'art. Ça m'effraie beaucoup.
Et ça a lieu ? Ça arrive ?
Je pense que ça arrive. Je pense que c'est un des grands dangers. Je pense qu'en des choses les plus importantes à faire, et on va essayer de contribuer à notre façon, c'est de rappeler aussi les gens le lieu central de la création et du théâtre dans la vie de la ville. La nécessité incroyable qu'on a dans nos jours, d'une forme de pensée divergente. Ça se dit divergente, qui n'est pas productif, qui n'est pas efficace. Les questions qui nous donnent les grandes inventions, les grands changements, sont les questions qui ne semblent pas productives, efficaces. Comment peut-on aimer mieux? Et ça donne des révolutions, ça donne des nouvelles économies, ça donne conquérir l'espace, le cosmos, mais ce sont des questions éternelles, intime et public en même temps. On doit répondre aux questions sur vivre et pas survivre, des questions de vie, de comment être plus heureux, comment être plus avec les autres, comment être plus libre. Parce que sinon, le discours public aujourd'hui au Portugal, et je pense que pas seulement, est très effrayé. Il y a une peur énorme de l'avenir, est très cerclé par la nécessité de produire, d'être efficace, de donner des résultats immédiats. Non, c'est pas ça, vivre. Vivre, c'est pas les résultats immédiats. Et il faut que l'art et le théâtre peuvent rappeler les gens de ça.
C'est justement sur la contagion que vous travaillez quand vous apprenez dans la pièce By Heart qu'on va entendre demain soir sur France Culture. Un sonnet de Shakespeare à 10 personnes. Chaque soir, c'est justement contaminer, faire que les gens sortent avec ce sonnet et portent cette parole-là, comme oui, un virus.
Quand on apprend un texte par cœur ou une idée par cœur, on devient le propriétaire de cette idée ou de ce texte. Il n'y a plus d'auteur, c'est à nous. Et cet effet de transmission que je pense qui existe dans l'apprentissage, dans l'école, dans les maîtres, mais qui est surtout la transmission qui est la seule garantie de civilisation, qu'on transmet les valeurs, qu'on transmet des idées, qu'on raconte des histoires les uns les autres. Je pense que le théâtre, c'est ça, en fait, c'est tout. On transmet.
Et est-ce que pour commencer la contagion, comme on va entendre demain soir dans les ateliers de la nuit, à 23h, la pièce By Heart, mais est-ce qu'on peut entendre peut-être le sonnet de Shakespeare qu'on apprendra par cœur demain soir en portugais ?
C'est une belle traduction de Vasco Graça Moura, un poète portugais qui a traduit tous les sonnets de Shakespeare. Quando me mudo e doce pensamento, chamo à lembrança as coisas que passaram, choro quem vão busquei, e me sustento gastando o tempo em penas que ficaram. E afogo os olhos, pouco afins ao pranto, por amigos que a morte em trevas esconde. E choro a dor de amar cerrada há tanto, e a visão que se foi e não responde.
Demain soir, vous apprendrez par cœur le sonnet en français avec Tiago Rodrigues. Il a imaginé une version radiophonique de son spectacle By Heart, par cœur, pour l'atelier fiction, enregistré sur cette scène du Théâtre National de Lisbonne. Les ateliers de la nuit sont lisboètes toute cette semaine grâce au soutien du Centre culturel Camoès. L'atelier intérieur se finit. Merci à Alice Ramon pour la préparation, à Delphine Lemaire pour la réalisation, à la prise de son dans les collines Michel Gassic et au mixage Jean-Benoît Tétu. Nous avons commencé en hauteur dans le vent, on finit à l'abri sur une scène de théâtre. Lisbonne offre des pics et des refuges, nous nous y baladons toute la semaine. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure des nuits.